Bonjour à tous, à tous ceux qui nous rejoignent. Merci d'être avec nous. Il est 13h en temps universel, 9h à Port-au-Prince. Une demi-heure consacrée à l'actualité du continent américain. Nous irons en Argentine où une grande mobilisation est prévue aujourd'hui. Les fonctionnaires protestent contre le projet du président Milei de ne pas renouveler des milliers de contrats dans la fonction publique. Nous parlerons aussi des nouvelles violences qui ont secoué Haïti, des tirs une fois de plus autour du palais présidentiel. La tension est si grande que l'hôpital principal reste fermé pour l'instant. Avec notre invité, nous évaluerons aussi les conséquences pour l'industrie haïtienne. On en parle dans quelques minutes. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez de cette alerte lancée par la collectivité territoriale de Martinique sur des problèmes fonciers récurrents.
Oui, le président Serge Letchimy demande l'envoi en Martinique d'une mission d'État pour en finir avec d'interminables querelles autour des terres et des titres de propriété.
À tout à l'heure.
RFI Midi.
Et avant tout cela, on va faire le point sur l'actualité internationale. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour à tous. Dans l'actualité, l'OTAN veut s'engager durablement aux côtés de l'Ukraine. C'est le thème abordé à Bruxelles où sont réunis actuellement les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance à l'heure où des menaces planent sur la pérennité du soutien américain. L'île de Taïwan frappée par un puissant séisme sous-marin. Dernier bilan, au moins 9 morts et près de 900 blessés. En France, le gouvernement a présenté son projet de loi pour l'agriculture. Des concessions ont été faites pour calmer la colère du monde agricole. Et ce sont maintenant la gauche et les ONG qui y voient rouge. Bruxelles accueille aujourd'hui et demain une réunion ministérielle des pays membres de l'OTAN. Ils sont pour la première fois 32 autour de la table, en comptant le ministre suédois, dont le pays est officiellement membre depuis début mars. Cette adhésion qui suit celle de la Finlande est d'ailleurs au centre des débats du jour. En effet, l'Alliance entend désormais se recentrer sur son cœur de métier, à savoir le face-à-face avec la Russie, qui a marqué l'essentiel de ses 75 années d'existence. Pierre Benazé.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, affirme ce mercredi, je cite, que l'Europe est confrontée à la perspective d'une guerre d'une ampleur qu'on croyait appartenir à l'histoire, c'est-à-dire un conflit similaire à ce que craignait l'Alliance Atlantique pendant les quatre premières décennies de son existence. Pour Jens Stoltenberg, c'est dorénavant l'OTAN qui doit garantir le soutien militaire à l'Ukraine afin de se prémunir d'une telle confrontation armée. Beaucoup d'alliés craignent un éventuel retour de Donald Trump, qui mettrait les États-Unis en retrait et remettrait en cause le soutien à l'Ukraine. Jusqu'ici, l'OTAN avait été tenu à l'écart du groupe de contact, baptisé groupe de Rammstein, coalition d'une cinquantaine de pays qui fournissent un soutien militaire direct à Kiev, coalition dirigée par les États-Unis. Les alliés semblent donc craindre moins le risque russe que le risque d'un effritement de la garantie de sécurité américaine. Ils veulent donc reprendre la direction du groupe de Rammstein pour décider à 32. Ils envisagent même de constituer un fonds de 100 milliards d'euros sur 5 ans pour graver dans le marbre leur soutien militaire aux armées ukrainiennes. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Il était question à l'instant de Donald Trump aux États-Unis. Les préparatifs des élections de novembre vont bon train. 4 États ont organisé hier leurs primaires. On sait que cette année, l'exercice se relève de la simple formalité pour Joe Biden et Donald Trump. Mais pour le président démocrate, elle est moins évidente que par le passé. Sur fond de guerre à Gaza et de soutien américain à Israël. Explication à New York de Lubna Anaki.
Dans ce bureau de vote à Brooklyn, ils étaient peu nombreux à avoir bravé la pluie. Mais ceux qui ont fait le déplacement sont venus avec une mission très claire.
Je compte voter blanc cette fois pour exprimer mon mécontentement vis-à-vis de l'administration Biden.
Un mécontentement autour de la gestion de la guerre à Gaza.
C'est le seul moyen pour nous de protester. On manifeste dans les rues depuis des mois, on fait du bruit et voter blanc est un moyen de plus pour montrer à l'administration Biden que nous ne sommes pas contents.
Le but, c'est de montrer à Biden que nos votes ne sont pas garantis, qu'il doit les mériter. Quand on n'a pas d'autre choix, on fait avec ce qu'on a.
Comme des milliers d'autres, ces New-Yorkais répondent en fait à l'appel lancé il y a plusieurs semaines sur les réseaux sociaux par des activistes, des syndicats et même des élus démocrates locaux. Voter blanc en signe de protestation contre le soutien de l'administration Biden à Israël. Le mouvement avait commencé lors de la primaire du Michigan en février et a été repris par d'autres États. À New York, il pourrait retentir encore plus fort étant donné que la ville est généralement totalement acquise aux démocrates. Mais il faudra attendre au moins une semaine pour connaître l'ampleur de cette protestation, le vote blanc n'étant comptabilisé que dans un second temps ici. Loubna Anaki, New York, RFI.
Je vous le disais dans les titres, la Terre a tremblé à Taïwan. Un séisme sous-marin de magnitude supérieure à 7. Il a surtout frappé la région de Hualien, près de l'épicentre dans l'est de l'île. Au moins 9 personnes sont mortes et près de 900 autres ont été blessées. 3 des victimes ont péri sur un sentier de randonnée écrasé par des rochers dont la chute a été provoquée par le séisme. Direction maintenant le Venezuela, où le Parlement a approuvé un projet de loi contre le fascisme sur proposition du président Nicolas Maduro, candidat, je vous le rappelle, à sa réélection en juillet prochain. Avant d'être promulgué, le texte doit être examiné en seconde lecture. Mais déjà, Marine Le Beg, les partis d'opposition et les militants des droits de l'homme n'en veulent pas.
Oui, l'opposition se sent directement visée. Selon cette loi, pour préserver, je cite, la coexistence pacifique et protéger la société vénézuélienne des mouvements fascistes, un certain nombre de messages seront interdits dans les médias. Interdits aussi les rassemblements d'organisations faisant l'apologie du fascisme. Désobéir coûtera 12 ans de prison et l'interdiction de toute activité politique. Alors, le fascisme, le texte le définit vaguement. La vice-présidente du Venezuela, qui l'a présenté à l'Assemblée nationale, a qualifié de fasciste à la fois les sanctions internationales contre le pays, mais aussi Javier Milei, le président de l'Argentine, ou encore Maria Corina Machado, principale opposante à Nicolas Maduro, et interdite de se présenter à la présidentielle de juillet. Réponse des partis d'opposition, le seul objectif de cette loi est de les museler et de porter atteinte au droit de manifester. Elle s'inscrit dans la continuité d'une autre loi, celle dite contre la haine, promulguée en 2017 par Nicolas Maduro lors des manifestations contre son gouvernement. Elle punit jusqu'à 20 ans de prison les personnes accusées d'inciter à la haine, avec une définition là aussi suffisamment vague pour enfermer les opposants.
Merci, c'était Marine Le Beg en direct dans ce journal. La Finlande observe une journée de deuil au lendemain de l'attaque perpétrée par un garçon de 12 ans dans une école. Un élève a été tué, 2 autres grièvement blessés. Pour la police finlandaise, le harcèlement et le mobile de l'enfant, auteur des tirs. Au Proche-Orient, le ministère de la Santé du Hamas évalue à presque 33 000 le nombre de tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël. Cette guerre en est à presque 6 mois et l'ampleur des destructions à Gaza depuis le 7 octobre est gigantesque. Tout ou presque est à reconstruire. Les routes, les maisons, les hôpitaux, les réseaux d'eau et d'électricité. Pour la première fois, la Banque mondiale donne une estimation chiffrée des dégâts. Justine Fontaine.
18,5 milliards de dollars de dégâts, voilà l'estimation donnée ce mardi par la Banque mondiale et les Nations unies. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du PIB annuel des territoires palestiniens avant la guerre. Une grande majorité des dégâts, près des 3/4, concernent le logement, ce qui fait que près de la moitié de la population a perdu sa maison ou son appartement. Concernant les autres infrastructures, 90% des routes ont été détruites, plus de 80% des équipements de santé aussi. Le réseau d'eau et d'assainissement est à genoux. Nous, il fonctionne seulement à 5% de ses capacités d'avant la guerre. Il n'y a quasiment plus d'électricité non plus. Enfin, les écoles ont aussi été touchées par les bombardements et plus aucun enfant gazaoui n'est scolarisé. Résultat de ces destructions et de la quantité extrêmement faible d'aide humanitaire qui entre à Gaza, plus de la moitié de la population est au bord de la famine, estime la Banque mondiale. Le rapport n'a pu comptabiliser que les destructions intervenues avant la fin du mois de janvier. Ce tableau très noir s'est donc encore assombri puisque la guerre et les bombardements continuent.
Justine Fontaine, sachez aussi que les ambulances transportant les dépouilles des travailleurs humanitaires de l'ONG américaine World Central Kitchen, tuées lundi à Gaza dans des frappes d'Israël, ces ambulances donc sont maintenant arrivées au poste de frontière avec l'Égypte. À propos de ces 7 morts, l'armée israélienne a reconnu une grave erreur. En France, le gouvernement a présenté en Conseil des ministres la nouvelle mouture de son projet de loi pour l'agriculture. Elle s'attire cette fois les foudres des ONG de protection de la nature, car pour apaiser les agriculteurs, on y trouve des mesures telles que des facilités pour construire des réserves d'eau, bien encore un allègement des sanctions en cas d'atteinte à l'environnement. Le Premier ministre seul en scène face aux députés, c'est une nouvelle formule des questions au gouvernement qui commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal se présente sans ses ministres lors de cette séance hebdomadaire. Un mot de football au programme ce soir, la seconde demi-finale de la Coupe de France face à face le Paris Saint-Germain et Rennes. En finale, le vainqueur sera opposé à Lyon. Enfin, la mort du doyen de l'humanité, un Vénézuélien de 114 ans, Juan Vicente Pérez Mora. Il était devenu en 2022 l'homme le plus vieux du monde selon le livre Guinness des records. Anne Gantner.
Merci Gilles Moreau. On va continuer à parler de l'Amérique latine. Merci à tous d'être avec nous.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Une nouvelle journée de manifestation est prévue en Argentine aujourd'hui. La fonction publique se mobilise après des annonces inquiétantes du président. La semaine dernière, Javier Milei a prévenu que les contrats de fonctionnaires arrivant à échéance le 31 mars, donc il y a trois jours, ne seraient pas renouvelés. On retrouve tout de suite pour en parler notre correspondant à Buenos Aires. Bonjour Théo Conscience.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Cette vague de licenciements est une nouvelle illustration du fameux plan tronçonneuse du président libertarien.
Oui, Javier Milei est obsédé par l'idée de remettre de l'ordre dans les comptes publics, et ce, à n'importe quel prix, et il est persuadé que l'État est la cause de tous les problèmes de son pays. Le président argentin répète à l'envi qu'il a déjà licencié 50 000 fonctionnaires, même si les chiffres officiels disponibles indiquent que le nombre de licenciements était plus proche de 10 000 jusqu'il y a peu. Ce qui est en revanche certain, c'est que depuis la semaine dernière, des milliers de fonctionnaires ont appris leur licenciement. Selon le porte-parole de la présidence, on parle de 15 000 personnes licenciées, tandis que 55 000 contrats sont actuellement en révision. Selon le relevé effectué par le syndicat ATE, ces licenciements ne semblent pas découler d'une méthodologie liée à l'ancienneté. En témoigne le licenciement de Lucas Berengua, technicien du service météorologique national, remercié la semaine dernière après 21 ans de bons et loyaux services. Un cas parmi tant d'autres qui, mis bout à bout, provoque le démantèlement de l'État argentin, dénonce le secrétaire général d'ATE, Rodolfo Aguiar.
Derrière chaque licenciement, il y a une tragédie pour le travailleur ou la travailleuse et sa famille qui se retrouve démunie. Mais face à cette vague massive de licenciements, ces tragédies individuelles se convertissent en tragédies sociales. Car derrière chaque poste de fonctionnaire qui disparaît, il y a une politique publique qui est démantelée. Les services publics vont être sévèrement affectés et au final, c'est la population qui va perdre des droits.
La meilleure illustration de ce dont parle Rodolfo Aguiar, c'est sûrement l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sociale. Des dizaines de bureaux de proximité de l'organisme ont été fermés, y compris dans des zones reculées, et 1300 de ses employés ont été licenciés depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei.
Et en réaction à cette vague de licenciements, Théo, le syndicat ATE appelle donc à une journée de mobilisation ce mercredi.
Oui, le syndicat appelle tous les employés licenciés, mais aussi ceux toujours en poste, à entrer de manière massive et coordonnée sur leur lieu de travail ce mercredi pour éventuellement occuper pacifiquement les bâtiments publics et les ministères si le gouvernement ne répond pas à leurs demandes. Un mode de mobilisation déjà utilisé sous la présidence de Mauricio Macri il y a quelques années, dans un contexte tendu, rappelle Rodolfo Aguiar.
La police fédérale avait été déployée pour bloquer l'entrée des ministères avec pour consigne de ne laisser passer que ceux qui n'avaient pas été licenciés. Nous n'écartons pas la possibilité que ce scénario se répète ce mercredi et nous tiendrons le président Milei responsable des violences ou de la répression qu'il pourrait ordonner et qui serait à déplorer.
Est-ce que cette mobilisation des fonctionnaires pourrait déboucher sur un mouvement de contestation plus large ?
Alors c'est possible et c'est ce que souhaitent Rodolfo Aguiar et le syndicat ATE, que les centrales syndicales appellent à une nouvelle grève générale comme le 24 janvier dernier.
Il faut rééditer un nouveau 24 janvier en Argentine parce que les fonctionnaires ne sont pas les seuls à souffrir. Le gouvernement a annoncé qu'il allait payer en plusieurs versements les misérables retraites que touchent les retraités. La consommation s'effondre et les commerces mettent la clé sous la porte. Les commerçants et les PME, eux aussi, souffrent de la politique économique du gouvernement. Il faut une nouvelle mobilisation qui unifie toutes ces revendications.
Malgré cette volonté de faire converger les mécontentements, le mouvement syndical reste encore divisé sur la question. Alors que la CTA, la deuxième centrale du pays à laquelle est affiliée l'ATE, pousse pour une nouvelle grève générale, certains secteurs de la CGT, la première centrale syndicale, pensent qu'à l'heure actuelle, une telle mesure serait précipitée et contre-productive.
Théo Conscience, correspondant de RFI à Buenos Aires, on suivra avec vous cette journée de mobilisation donc dans le secteur public en Argentine. Le président Milei, lui, a rencontré hier des vétérans de la guerre des Malouines en 1982 et des militaires. Et il a profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les Argentins. Écoutez.
Por eso convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a que este 2 de abril inauguremos una nueva era de reconciliación con las fuerzas armadas.
Javier Milei a interpellé la classe politique et l'ensemble de la société à une nouvelle ère de réconciliation avec l'armée, une ère qui rendrait hommage sincèrement aux héros, leur donnant la reconnaissance qu'ils méritent, une nouvelle place pour des forces armées discréditées, dit le président argentin, faisant référence à la dictature militaire qui a duré de 76 à 83. Et ce discours du chef de l'État, la presse argentine y revient beaucoup aujourd'hui, Christophe Paget.
Oui, Parina Docé note que cet appel du président a été rejeté par les organismes de défense des droits humains qui y voient une nouvelle escalade négationniste des crimes de la dictature. De son côté, la capitale note qu'hier, Javier Milei a aussi appuyé la revendication du territoire des Malouines, aujourd'hui entre les mains du Royaume-Uni. Le président a assuré que les gouvernements précédents se sont limités à faire des demandes qui n'ont eu aucun impact sur la réalité et a suggéré que l'Argentine ne récupérera ses îles que lorsqu'elle sera devenue une puissance économique. Les Malouines sont entre les mains du Royaume-Uni et à l'époque de la guerre perdue par l'Argentine, c'est Margaret Thatcher qui dirigeait le pays. Margaret Thatcher, dont Javier Milei s'est toujours dit un grand admirateur de la vision ultralibérale. Ce message hier de Javier Milei a donc surpris, écrit Clarine, les kirchneristes qui ont dirigé pendant 20 ans le pays et qui, pendant la campagne présidentielle, avait choisi cet angle pour attaquer Javier Milei. Pour entendre notre Clarine, si hier, dans son discours, le président a soutenu la revendication des îles Malouines, il a évité d'attaquer directement Londres.
Paris Nado se parle d'un discours hypocrite et affirme que Javier Milei ne défend pas la souveraineté argentine.
Les États-Unis ont été les alliés du Royaume-Uni lors de la guerre des Malouines, lui en portant du renseignement et de la logistique. Or, tonne le quotidien, ce président, qui parle de l'exigence inébranlable de souveraineté, a aligné la politique extérieure du pays avec celle des États-Unis. Quant aux forces armées, estime l'éditorialiste, la société n'a pas de problème avec elles. Ceux avec qui il n'y a pas de réconciliation possible, ce sont les génocidaires. Le quotidien rappelle que la commission Rattenbach, qui s'est penchée sur les responsabilités dans le conflit, a décrit la guerre comme une aventure militaire de la dictature, une guerre à laquelle les forces armées argentines n'étaient pas préparées, une guerre pendant laquelle 600 Argentins ont été tués.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Des tirs intenses, une fois de plus en Haïti. Les gangs ont affronté les forces de l'ordre autour du palais présidentiel dans la capitale. Ces violences quotidiennes empêchent notamment l'hôpital de l'Université d'État de rouvrir ses portes. Le syndicat de l'établissement condamne l'invasion des lieux par des civils armés et déplore des dégâts. L'information est à lire dans le journal Le National. Et la presse, Christophe Paget, revient aussi sur l'attaque du petit séminaire.
Alter Press publie une lettre du père Reynold Joseph, supérieur provincial de la Congrégation du Saint-Esprit. Elle commence ainsi. « Chers confrères et amis, la situation à Port-au-Prince devient hors de contrôle et nous en sommes plus que jamais victimes. » Le religieux souligne que la police, très affaiblie actuellement et débordée par l'attaque au même moment du palais national tout proche, n'est pas intervenue malgré les appels répétés que nous avons pu effectuer. Pendant plus de 6 heures de temps, les bandits ont continué à piller, incendier, voler. Notre correspondant parlait dans un de ses reportages de la prise de contrôle pendant plusieurs heures de l'hôpital universitaire d'Haïti. Les pharmaciens s'inquiètent aussi de la pénurie de médicaments et d'intrants médicaux, écrit le Nouvelliste, car le pays dépend à environ 70% des importations pour s'approvisionner en produits pharmaceutiques. Mais les ports et les aéroports sont dysfonctionnels depuis plusieurs semaines à cause des gangs. Des pharmacies ont également été incendiées, ce qui aggrave la pénurie, pointe toujours dans le Nouvelliste le président de l'Association des pharmaciens d'Haïti, Pierre-Hugues Saint-Jean.
Et c'est dans ce contexte, Christophe, qu'Amnesty International exige de la République dominicaine qu'elle mette fin à ce qu'elle appelle ses politiques migratoires racistes.
L'organisation demande la cessation des retours forcés vers Haïti et rappelle, écrit le Nouvelliste, que ces expulsions collectives constituent une violation flagrante des obligations internationales de la République dominicaine et mettent en danger la vie et les droits des personnes concernées. Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits humains disent avoir envoyé une lettre ouverte au président dominicain, Luis Abinader. En 2023, le gouvernement dominicain dit avoir expulsé plus de 250 000 ressortissants haïtiens.
Et cette situation humanitaire et sécuritaire surtout, elle pèse très lourd sur les industries d'Haïti. On va en parler avec notre invité. Bonjour Georges Sassine.
Bonjour.
Vous êtes membre du conseil d'administration et ancien président de l'Association des industries d'Haïti que vous avez contribué à créer. On a appris il y a quelques jours l'incendie du site industriel de Digneron à Croix-des-Bouquets. Alors, il était déjà fermé depuis 2 ans, mais cette fois, les bandits sont allés plus loin encore. Ils ont détruit les lieux.
Oui, effectivement, ça, c'est encore aussi incompréhensible que la destruction des hôpitaux, des cliniques et des pharmacies et des écoles. On ne comprend absolument pas le but final de tout cela.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de sites, combien d'usines sont hors service?
Bon, non. Maintenant, les autres usines qui sont hors service, c'est parce qu'elles ont été détruites. C'est parce que le port, aéroport, sont fermés, ça fait un mois. Donc, celles qui ont continué à travailler cette semaine vont tomber en panne de matières premières parce qu'elles n'ont rien reçu depuis un mois et elles n'ont rien expédié. Et il y en a beaucoup d'autres qui ont fermé depuis, ça peut être 2 semaines, 3 semaines même. Il y a des endroits qui ont été pillés. Ça fait 2 ou 3 semaines que les propriétaires ne peuvent même pas aller faire l'inventaire de ce qu'ils ont perdu. Donc, il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien là pour le moment.
Et en ce qui concerne les emplois, puisque la fermeture de ces sites, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a plus de travail pour les personnes qui en sont les salariés oui. ou qui avaient l'habitude d'y intervenir. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont aujourd'hui privées d'emploi dans l'industrie haïtienne ?
Bon, je peux répondre pour les usines qui travaillaient pour l'exportation, c'est-à-dire qui faisaient des vêtements 100% pour le marché américain. Le dernier relevé qu'on a eu, c'était avant la fermeture, c'est-à-dire fin février. Je vous rappelle qu'en décembre 2022, on était dans ce secteur à 62 000 emplois. Et donc, fin février cette année, on est à 29 000. Maintenant, là, il y en a plus parce que je ne peux pas savoir là maintenant.
Là, on parle de chiffres de février. Vous nous parlez du secteur de l'industrie textile. Il y a un site qui est très important, c'est celui de Caracol, où de nombreux employés avaient dû être mis au chômage technique. Quelle est la situation sur place aujourd'hui ?
Caracol, malheureusement, était à 14 000 ouvriers. Aujourd'hui, est à moins de 3 000. Mais au moins, ces 3 000-là, ils travaillent. Parce que Caracol reçoit par la République dominicaine. Ils sont au nord-est. Donc, le grand problème, c'est surtout ici à Port-au-Prince. Donc, Caracol et Codevi, c'est le seul qui fonctionne toujours.
Donc là, il y a encore du travail. Vous nous le disiez, la situation est particulièrement difficile dans la capitale et dans ses environs. On a parlé de l'industrie du textile. C'est ce secteur-là qui est le plus touché ou la situation concerne tous les secteurs industriels ?
Non, tous les secteurs industriels sont touchés. Il y en a beaucoup plus que d'autres, mais tous. Surtout ceux de l'agro-industrie qui sont à zéro. Par exemple, on exporte absolument zéro de mangue d'Haïti. On était l'un des plus grands exportateurs de mangue. Il n'y a pas une seule mangue qui laisse Haïti.
Combien de temps il faudra pour se remettre de tout ça ?
Bon, ça c'est une très, très grande question. Ayant vécu l'embargo de 1993, qui n'avait duré que 3 ans, et ce n'était pas du tout à ce niveau, ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps, plus de 10 ans. Là, je ne peux pas répondre. Comme je vous ai dit, il y a 3 secteurs chez nous. Il y a le secteur agro-industriel, le secteur de production nationale, par exemple, ceux qui font les pâtes alimentaires et les boissons, et les trucs comme ça, et puis le secteur textile. Le secteur textile est réduit à moins de 50%, l'agro-industrie à zéro, et ceux qui continuent, par exemple, il y en a sur 4 usines qui purifient et livrent l'eau potable à Port-au-Prince, il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. Donc, voilà. Et ça, je vous parle là de ce que je sais de la semaine dernière. Je ne peux pas vous dire à partir d'aujourd'hui.
Merci Georges Sassine, membre du conseil d'administration et ancien président de l'Association des industries d'Haïti. On vous retrouve, Christophe Paget, pour un coup d'œil à la presse mexicaine. Une candidate à la mairie de Celaya, dans le centre du pays, a été assassinée ce lundi.
Oui, le visage souriant de Risla Gaitán est à la une des sites internet de tous les quotidiens mexicains. L'attaque s'est produite alors que la candidate commençait sa campagne. Selon Milenio, le cartel Santa Rosa de Lima est le principal suspect. La Rolnada souligne que le parti Morena, le parti de la candidate, avait demandé que ses candidats soient protégés, mais les autorités électorales ne l'ont pas fait pour Risla Gaitán. Les autorités n'étaient pas d'accord sur ce qui devait la protéger, explique la Razón, alors que les violences électorales ont augmenté de 150% en 3 mois. De juin 2023 à mars 2024, 156 candidats ou personnes en relation avec les élections ont été agressés, 50 ont été assassinés. Le crime organisé défie ouvertement la souveraineté de l'État mexicain, écrit Milenio, mettant en péril non seulement la vie des candidats, mais aussi l'intégrité du processus démocratique dans son ensemble.
Christophe Paget, votre revue de presse est à retrouver sur internet, rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
En Martinique, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale alerte le gouvernement sur les problèmes récurrents du foncier dans le département.
Dans un courrier adressé au préfet de la Martinique, Serge Letchimy demande l'envoi d'une mission d'État pour en finir, ou en tout cas tenter d'en finir, avec ces inextricables et interminables querelles autour des titres et autour des terres et des titres de propriété. Écoutez le patron de la CTM au micro d'Audrey Govinda.
Il faut que tout le monde parle. Donc c'est l'expression publique globale, y compris les associations, y compris les institutions. On pourrait, dans le cadre d'une conférence, faire ce travail-là, et pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, recueillir toutes les informations qu'on peut recueillir au nord, au centre, au sud de la Martinique, de telle sorte qu'on puisse élaborer nous-mêmes, Martiniquais, les solutions destinées à régler ces conflits-là. Mais si on fait ça, et puis on n'a pas les compétences pour les mettre en œuvre, c'est limité. C'est pour ça que j'ai demandé à l'État de dépêcher immédiatement ce qu'on appelle une mission d'État avec des experts du Conseil d'État, ou d'ailleurs, je ne sais pas d'où ils vont venir, de telle sorte à ce que notre parole ne soit pas dans le vide, que ces experts-là puissent noter nos propositions, et puis on arrêtera les choix. S'il y a des modifications réglementaires, il y en aura de toute façon, ou législatives, ces modifications doivent être portées avec un engagement de l'État de les faire voter à l'Assemblée nationale.
Serge Letchimy, direction la Guyane, préserver l'arawak, l'une des langues vernaculaires du département. C'est l'objet depuis 3 ans de rencontres mensuelles autour de la pratique et surtout évidemment de la sauvegarde de ce patrimoine linguistique très menacé. Écoutez ce reportage à Saint-Laurent-du-Maroni, dans l'ouest de la Guyane, signé Terence Moy.
Sous le carbet du village Iwa à Saint-Laurent, un petit groupe d'Amérindiens s'exprime dans une langue qui peine à résister au temps. Ce sont des Lokonos qui viennent de différents villages et se sont réunis pour travailler sur le lexique et la syntaxe de la langue arawak. Jelas Afid, membre de la Fédération Lokono de Guyana.
Ce qui est intéressant avec ce travail, c'est que les locuteurs parlent la langue, mais ne se sont jamais posé la question sur le fonctionnement de la langue. Donc ce travail aussi, ça permet à ces personnes de se poser les bonnes questions sur le fonctionnement de la langue.
Ils se réunissent une fois par mois, que ce soit à Saint-Laurent, dans différents villages locaux, ou ailleurs, comme à Sainte-Rose-de-Lima, à Matoury. Le travail de poser à l'écrit cette langue parlée a débuté il y a une vingtaine d'années. S'est arrêté, puis a repris il y a 3 ans grâce à la volonté des locaux de Guyane, accompagnés d'une ethnologue. Le travail entrepris par la Fédération Lokono de Guyane est visible sur leur page internet. Les membres espèrent rencontrer prochainement les Lokono du Suriname qui ont entamé exactement le même processus.
Bon après-midi Anne, à demain.
À demain Benoît Ferrand. On se quitte en musique avec une voix très engagée, celle d'Anna Tijoux, rappeuse franco-chilienne. Elle est devenue une star en Amérique latine. Le magazine Rolling Stones l'avait même élue en 2014 meilleure rappeuse de langue espagnole. Après 10 ans sans album solo, elle revient avec Vida, album qu'elle présentera à Paris ce soir, Edmond Sadaka.
Depuis une quinzaine d'années, Anna Tijoux est devenue au Chili, comme dans toute l'Amérique du Sud, l'une des porte-paroles des combats contre la discrimination à l'égard des femmes. Son activisme, elle le partage sur un hip-hop festif teinté de musique traditionnelle latine ou encore d'électro. Anna Tijoux vit au Chili depuis les années 90, après être née en France. Aujourd'hui, que ce soit dans son pays comme un peu partout en Amérique latine, elle note que la scène rap féminine ne cesse de monter en puissance.
C'est un continent qui a une énorme force. Comme on parle tous à peu près la même langue, sauf le Brésil évidemment, on se comprend tous, donc c'est une énorme scène de nouvelles rappeuses qui prennent le micro. Autant le Chili, l'Argentine, la Colombie, il y a quelque chose qui se passe en Amérique latine.
Parmi les 15 titres de l'album Vida, il y a Nings, une chanson qu'elle a voulu comme une sorte de manifeste pour, dit-elle, la part d'enfants que nous avons tous en nous.
La voix d'Anna Tijoux, l'une des plus grandes rappeuses de langue espagnole, retournée vivre dans son Chili d'origine après avoir grandi en France. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation ce mercredi, Vincent Bito, François Ballarin à la rédaction en chef. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h, temps universel. Et d'ici là, vous le savez, vous retrouvez toutes nos informations sur l'application RFI Pure Radio. Ne bougez pas, dans quelques secondes maintenant, de vive voix, Chantal Leroux et ses invités se demandent à quoi servent les dictionnaires disciplinaires.
irme hacia la cordillera. Tanta...